quotidien avec Hélène Denis.
Bonjour, bon mardi. Merci Denis Martin Chabot d'avoir été là hier. Ça m'aide à vivre. Deuxième jour de décembre. Tout le monde a ses pneus d'hiver? J'espère bien. Mathieu, oui?
Oui.
Oui, vous qui êtes toujours en dehors, ben pas en dehors, mais un peu marginal. Mais là, on n'a pas le choix, hein, sans ça.
J'allais dire hors du temps.
Oui. Je ne sais pas, ça coûte combien la contravention si on se fait prendre les pneus d'été à l'air? Bon, alors là-dessus, je vous salue et je vous invite aussi à la prudence parce qu'il y a de la glace partout. Il y en a dans les rues, il y en a sur les trottoirs. J'ai fait un Bambi de moi-même.
Ah oui, moi aussi, hier, en vélo.
Non! Ouais. Ah, en vélo? OK. Je ne savais pas que Bambi est en vélo, par exemple.
Ah oui, tout à fait. C'est la nouvelle version moderne.
Vous avez chiré en bon français.
Ben, c'est la version sur patin à glace, là, Bambi on ice.
Ah oui, OK. Ben oui, ça nous... J'imagine que ça sonne des cloches, là, la scène où Bambi s'étend, ou en tout cas... s'écartille, un bon québécisme ce matin, sur un étang gelé. Il faut faire vraiment attention parce qu'on peut se blesser. Un accident est si vite arrivé. André Lacombe, ça va?
Ça va bien, là.
Oui, votre micro est drôlement placé, on dirait. Peut-être, oui, le monter
mieux
pour qu'on entende mieux. Oui, 2 décembre, vous avez organisé une chronique éphéméride.
Tout à fait.
On a vérifié si on disait une ou un, c'est une éphéméride.
Une. Avec oui. Prénom du jour et thème de la journée mondiale.
OK. Est-ce que vous pouvez nous donner un avant-goût?
Les Napoléons ont fait des leurs en ce 2 décembre dans l'histoire. Oui.
Est-ce que c'est un prénom du jour?
L'oncle et le neveu.
OK. Oui. Bon, à suivre, l'oncle comme dirait neveu. L'autre.
On marque l'histoire.
Parfait. Merci, André, d'être là. Il y aura aussi la chronique économie aujourd'hui. Notre ami Michel Poitvin va parler de l'achat de la banque Laurentienne, entre autres choses. On aura également de la belle visite. Catherine Souffron-Darbouze, vous la connaissez si vous écoutez, regardez l'œil du cyclone, la Caille-Nou. C'est la nouvelle recrue de la 20e édition de Revue et Corrigée que j'ai vue hier, grande première, et ça a été un immense succès. Les gens ont beaucoup ri et il y a eu une claque à la fin. Ben, une ovation, là, c'est sûr qu'il y a des ovations tout le temps, mais là, on sentait que c'était sincère. J'ai bien hâte de lui parler. Elle incarne certains personnages avec énormément de brio. Elle fait tout avec brio, mais il y a des personnages qui ressortent du lot, dont son Boucard Diouf, qui est irrésistible. Ensuite, la chronique livre avec Anne-Marie Aubin, 3 livres jeunesse également. La télésérie Malgré moi qui prend l'affiche de tout.tv Extra dès demain. C'est une série franco-manitobaine, une fiction originale. Et c'est Stéphanie Morin-Robert qui est une comédienne qui vit aussi avec un handicap visuel qui fait partie de la distribution. Elle viendra nous parler de cette télésérie-là. Alors, gros menu en ce mardi 2 décembre. Et comme on est décembre, on y va avec des airs de Noël.
So waiting the
Christmas Time is Here de Vince Guaraldi Trio.
Alors, je me demandais combien ça coûtait aux gens qui n'allaient pas écouter la consigne qu'il faut installer ses pneus d'hiver avant le 1er décembre. Le 1er décembre, c'est vraiment la date limite. J'ai vérifié sur Québec.ca, on dit qu'une amende de 200 à 300 $ est prévue pour les conductrices et conducteurs qui ne respectent pas la réglementation. Allons-y avec les unes. École secondaire à Brossard, vol, chahut et bagarre. La police est intervenue 25 fois cet automne, mais rien n'y fait. Des commerçants subissent jour après jour les comportements violents des élèves de l'école secondaire d'en face. Alors, ça, c'est pas dans la cour d'école. Il y a des batailles, il y a aussi du grabuge dans certains commerces. On a rencontré les propriétaires de dépanneurs, d'un serrurier, d'une pizzeria. Bagarre, menace, agression, armés, vols qualifiés, méfaits des commerçants sont exaspérés par les comportements violents d'élèves de l'école secondaire Antoine Brossard. Depuis la rentrée scolaire, la police de Longueuil est intervenue à 25 reprises près d'un centre commercial où des centaines d'adolescents s'attroupent tous les jours à l'heure du midi. C'est Daphné Cameron qui signe le texte et donc il y a plusieurs personnes qui sont exaspérées. La situation s'est aggravée depuis septembre, disent les commerçants. Une réalité corroborée par le SPAL. En 3 mois, 25 déplacements policiers, ça commence à être considérable, confirme l'agent relationniste François Boucher. Quelle est la nature des événements commis? Des bagarres impliquant des dizaines de jeunes, des vols qualifiés sur des personnes, des méfaits sur des commerces, des agressions armées, la possession d'armes blanches, l'usage de gaz de type répulsif contre les ours et des incivilités près d'établissements, rapporte le corps policier municipal. La situation est préoccupante en raison de la gradation de la violence, affirme François Boucher. C'est pourquoi la présence policière s'est intensifiée. On veut vraiment envoyer un message aux jeunes que les comportements violents et les infractions ne sont pas tolérés et ne seront pas tolérés à l'avenir non plus. François Boucher, agent relationniste du SPAL, c'est le service de police de Longueuil. À la une du Devoir, quelque chose de beaucoup plus apaisant, le Devoir à Petit-Saguenay, un accès au plein air qui fait rêver tout le monde. Alexis Riopel qui signe le troisième texte de cette série « Une école tournée vers la nature ». D'abord, les enfants chaussent leurs skis, puis s'élancent pour quelques tours devant l'école en encerclant le gros bouleau blanc. C'est encore novembre, mais à Petit-Saguenay, au 48e degré nord, un parka neigeux enveloppe le visage, le village, dis-je bien. Je vous laisse libre pendant 10 minutes pour vous réchauffer, lance Jean-François Hainaut à son groupe de 3e et 4e année. À ce bal d'équilibrisme, certains filent, d'autres plongent. Nous sommes à l'école du Vallon, petit établissement public qui compte 54 élèves. Après avoir connu une époque difficile au début des années 2000, en raison du vieillissement du village, l'école vit maintenant un nouvel essor. Les familles sont de retour, l'école est fraîchement rénovée et on y offre un programme éducatif axé sur la nature qui fait le bonheur de tous. Après les 10 minutes d'échauffement, l'enseignant réunit ses élèves en ski-raquette devant lui. Les livres qu'on lit nous définissent, mais aussi le territoire qu'on habite, clame M. Hainaut, en sortant un bouquin de son sac à dos, une édition jeunesse du classique Walden ou La vie dans les bois de Henri David de Thoreau ou Henry David Taureau. Il saisit aussi une feuille d'arbre ambrée et sinueuse. À quelle espèce appartient-elle? Toutes les mains se lèvent d'un seul coup, puis on entend chêne rouge. Au creux des montagnes des Laurentides, l'école du Vallon offre un programme axé sur la nature, inspiré des écoles finlandaises. Au creux des montagnes Laurentides. Et puis, un autre titre dans le Devoir, au théâtre, un manque d'argent qui perdure. Plusieurs compagnies programmées cette saison dans des théâtres importants, tels que le Centre du théâtre d'aujourd'hui, l'Espace Go ou le Périscope, n'obtiennent pas leurs subventions de production. Elles ne peuvent compléter leur budget. Certaines choisissent d'annuler les représentations, d'autres vont de l'avant à leurs frais. Est-ce une génération de créateurs sacrifiés? Regard sur une nouvelle saison des annulés. Et à la une du Journal de Montréal, rien de réjouissant. Course à la chefferie du Parti libéral, d'autres textos troublants. Peux-tu me faire une faveur? Je soutiens mon ami qui est dans la course pour le Parti libéral du Québec. Son nom est Pablo. Mais je ne peux donner plus que 500 $. Je dois trouver des gens qui habitent au Québec pour donner pour moi. Serais-tu capable de lui donner 500 $ et je peux te l'envoyer? Alors, c'est le bureau d'enquête qui publie ces textos et cet article à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Un entrepreneur a donné 500 $ à la campagne de Pablo Rodriguez en juin à la demande d'un homme d'affaires et ami qui lui avait fait miroiter des faveurs en retour. C'est un texte d'Annabelle Blais. Et aussi, ce qui occupe la une du Journal de Montréal, principalement, la docteure Gabrielle Grégoire, qui a annoncé la fermeture de son GMF à Hudson, en Montérégie. 40 cliniques médicales menacées de fermeture. C'est aussi à lire dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, en pages 6 et 7. Une hémorragie guette le Québec. Une quarantaine de cliniques médicales pourraient fermer en raison de la loi de la CAQ, la loi 2.
Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Pourquoi faire aujourd'hui que tu pourrais faire demain? Que tu pourrais faire demain? Je pourrais faire une sieste, ma to-do list, passer le balai. Va appeler ma mère, faire du bénévolat. On va-tu prendre un café, on va-tu prendre une drink? Je pourrais prendre une marche, il fait beau soleil. Sortir dehors, ça me ferait pas tôt. Regarder une série, peut-être une deuxième. Me couler un bain, me semble je le mérite.
Lisa Leblanc, pourquoi faire aujourd'hui?
Éphéméride du 2 décembre avec vous, très cher André. Vous commencez avec le prénom du jour et le thème de la journée mondiale.
Oui, bonjour aux Viviane aujourd'hui et
Viviane.
Aux Bibiane aussi.
Ah, sont plus rares les Bibiane.
Sont plus rares, oui. Mais j'en ai connu.
Oui?
C'est donc la Sainte Viviane aujourd'hui. Viviane, c'est un prénom dérivé du latin Vivianus, qui signifie plein de vie ou ardent.
Joli.
Mais c'est un prénom fougueux, donc. Ouais.
Les Viviane sont des passionnés.
Des passionnés.
Et Viviane, ça me rappelle l'émission Jeunesse, le Major Plum Pudding. Il y avait une Viviane.
Ah, je ne me souviens pas de ça. Et pour la journée mondiale, en ce 2 décembre, l'ONU adoptait la Convention pour la répression et l'abolition de la traite des êtres humains et aussi de l'exploitation d'autrui, par la prostitution, ce qui a créé la Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage. Alors, l'objectif, c'est d'éradiquer les formes contemporaines d'esclavage comme la traite de personnes, par exemple, travail forcé, exploitation sexuelle. Et oui, ça existe toujours, malheureusement. Travail des enfants, mariage forcé et recrutement d'enfants dans les conflits armés.
Maintenant, quelques faits marquants qui sont arrivés un 2 décembre.
En 1804, ouais. Napoléon Bonaparte, j'en parlais un petit peu tantôt, il se sacre lui-même empereur des Français. Hein? Rien de trop beau.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Il a bien compris ça. Alors, on dit qu'après avoir fait patienter le pape pendant des heures, lequel l'attendait à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il lui arrache littéralement la couronne des mains et se la pose lui-même sur la tête,
oui.
Montrant ainsi au monde entier qu'il recevait son pouvoir non d'une autorité extérieure, mais de lui seul. Comme on dit,
et ça a passé.
Pardon?
Ça a passé au conseil.
Il semblerait que le pape a tourné les talons et est parti. Alors, comme on dit en québécois, il ne se prenait pas pour un 7-up flat.
Non.
Et pour rester dans la parenté, en 1851, 47 ans plus tard, Louis-Napoléon Bonaparte, qui est le neveu du premier, est l'auteur d'un coup d'État. Alors qu'il est président de la République depuis plus de 3 ans, il manœuvre pour conserver le pouvoir à quelques mois de la fin de son mandat, alors que la Constitution lui interdit de se représenter. Et décidément, le gène de la démocratie dans cette famille-là n'était pas très fort. En 1877, le chimiste et physicien français Louis-Paul Caillet parvient à produire des gouttelettes d'oxygène liquide pour la première fois. Une découverte qui va trouver de nombreuses applications, entre autres pour la conservation des aliments. On sait qu'un gaz, c'est très froid à l'état liquide. Dans le domaine médical, par exemple, pour la conservation des organes, et même presque 100 ans plus tard, pour la conquête de l'espace, parce que l'oxygène liquide fait partie des composants du carburant des fusées. En 1893, inauguration du Royal Victoria à Montréal, de l'hôpital Royal Victoria, qui est très moderne pour son époque, même salué comme le meilleur hôpital et le mieux équipé sur le continent américain.
Qui était situé sur l'avenue des Pins, si je ne m'abuse.
Oui, absolument, sur la montagne, tout comme l'Université McGill, d'ailleurs. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on parle vraiment de zone rurale, hein? C'est carrément à la campagne. Et c'est un choix qui est motivé pour deux choses. D'abord, accessibilité pour les étudiants de McGill, justement, et pour les bénéfices de l'air frais pour la santé. Alors, c'est ce qui a influencé le choix de ce site. En 1901, l'entrepreneur et inventeur américain King Camp Gillette.
Ah, je ne connaissais pas King Camp. C'était son prénom, ça?
Ça a bien l'air. Tout un prénom. Il dévoile son rasoir à lame interchangeable en forme de la bonne vieille pioche qui existe toujours. Hein?
Très pratique.
Ça fait un travail merveilleux, d'ailleurs. J'en suis un utilisateur convaincu.
Vous êtes rasé de près? Ce matin?
Non, pas ce matin, mais quand je me rase, je me rase de près.
Grâce à Gillette.
Grâce à M. Gillette. En 1908, Pu Yi devient le 12e et dernier empereur de Chine à l'âge de 3 ans. À peine 3 autres années plus tard, la révolte du 10 septembre 1911 met fin au règne de la dynastie Manchu Qing et à la période féodale et donne naissance à la toute première république chinoise. Donc, la Chine entre dans une nouvelle ère. Quand même, c'est début 20e siècle. Là.
Empereur à 3 ans.
Oui.
En couche.
Cette époque-là, c'était vraiment transmis par le sang. En 1979, les Iraniens donnent le pouvoir à l'ayatollah Ruhollah Khomeini, le fameux ayatollah Khomeini, guide spirituel de la révolution islamique, qui renverse à ce moment-là, on peut dire officiellement, parce que ça se tramait depuis un grand bout, renverse donc officiellement le Shah d'Iran. Et en 2007, Régis Labeaume est élu maire de Québec.
Je ne sais pas s'il va fêter ça aujourd'hui.
Je ne sais pas.
Je sais que la mairie est vraiment derrière lui, là, le
oui,
rôle de maire.
Tout à fait.
Et maintenant, quelques dates anniversaires.
Du côté des anniversaires de naissance, en 1859, le peintre français Georges Seurat, un des pionniers du pointillisme. Ça, c'est une technique qui consiste à appliquer des petits points de couleur plutôt que de mélanger les couleurs sur la palette.
Mm-hmm.
Le résultat, c'est que c'est l'œil du spectateur qui va faire le mélange optique des couleurs puis qui va décoder l'image. Donc, c'est l'ancêtre des pixels, en fait.
Très beau ce qu'il
fait. C'est vraiment de la pixelisation. En 1893, naissance à Montréal de la peintre Kathleen Moyer Morris, qui est élue membre de l'Académie royale des arts du Canada en 1929 et qui fait ensuite partie d'expositions vraiment prestigieuses, semble-t-il, à Buenos Aires, à Londres, ainsi qu'à l'exposition universelle de New York de 1939.
Mm-hmm.
Donc, c'est une peintre assez marquante qui laisse en héritage de nombreuses scènes de rue de Montréal.
Je laisserais même tomber le AC.
Oui.
Oui, une peintre marquante.
Une peintre marquante.
Kathleen Moore Morris.
Oui.
Morris.
En 1906, l'ingénieur américain Peter Carl Goldmark. Alors, qui était-il? Ben, c'est l'inventeur de la télécouleur et du 33 tours, le bon vieux vinyle.
Hey, tout un inventeur.
Il en a fait des choses, hein? Lequel vinyle regagne en popularité, d'ailleurs,
ah,
semble-t-il.
Oui.
D'année
oui,
en année,
oui,
les ventes
années.
Augmentent
oui,
sans cesse.
Oui.
En 1913, Léo Rivet, un des pionniers du burlesque québécois, ou comme disait Gilles Latulippe, le burlesque.
Oui.
Et il a travaillé notamment avec Olivier Guimond, fils, avant de former un duo avec Claude Blanchard.
Oui, il est trois ans en ferme.
Pendant près de 20 ans. Et c'était, comme on dit, son faire-valoir ou son straight man.
Ah oui, il faisait une paire imparable.
Oui, une paire imparable.
Oui, Léo Rivet.
Léo Rivet.
Il avait l'air sympathique, cet homme.
Absolument. Bouille sympathique.
Ah, grande voix.
En 1923, ben oui, grande voix, la célèbre cantatrice d'origine grecque, Maria Callas. Et en 1991, la skieuse acrobatique Chloé Dufour-Lapointe, la cadette du trio formé avec ses sœurs Justine et Maxime, toutes trois skieuses acrobatiques, 34 ans aujourd'hui donc, Chloé Dufour-Lapointe. Rappelons qu'elle a annoncé sa retraite à l'issue des Jeux de Pékin en 2022.
Bon anniversaire.
Bon anniversaire.
Et on termine avec les décès. C'est plus triste.
Oui, moins dans certains cas, comme dans le cas du très controversé Marquis de Sade en 1814, romancier et philosophe qui a passé 30 ans de sa vie en prison à la suite de nombreux actes de débauche, dont il a été accusé.
Donc, il est mort le 2 décembre 1814.
En 1918, l'écrivain et dramaturge Edmond Rostand, auteur du célèbre Cyrano de Bergerac. Mm. C'est un pic, c'est un cap.
Ouais. C'est une grande pièce.
C'est une grande pièce. En 1931, le compositeur et pédagogue français Vincent Dindy, une école de musique porte d'ailleurs son nom à Montréal
sur
depuis 1951, sur Côte-Sainte-Catherine. 1951, parce que c'était l'année du centenaire de sa naissance. Mais l'école existait déjà depuis 1932, sous le nom d'École supérieure de musique d'Outremont.
Ah bon, elle a changé de nom.
Elle a changé de nom en 1951. Et en 1980, le romancier français d'origine lituanienne Romain Gary, qui écrivait aussi sous le nom de plume Émile Ajar. Mais c'est deux pseudonymes, en fait, parce que son véritable nom, c'était Roman Kassev.
Ah, je savais pas
d'origine
ça.
D'origine lituanienne.
Donc, c'était ni Romain Gary, ni Émile Ajar. Je savais que c'était des pseudonymes, mais Roman Kassev, grand écrivain.
Grand écrivain. En 1983, la comédienne québécoise Marie-Rose Angélina Yvonne Lucier, donc ça ne doit pas dire grand-chose
non.
à personne, mais si je dis Fifi d'Orsay, ah, peut-être que là, ça sonne des cloches. Alors, pourquoi Fifi d'Orsay?
Et non, Fifi Brindacier.
Et non, ça aussi, mais non, c'est pas la même. Alors, on raconte que dans ses jeunes années, elle rêvait de devenir actrice, comme bien les jeunes filles, j'imagine, mais elle est partie pour New York pour passer des auditions. Et pour faire de l'effet, elle dit au directeur du cabaret qu'elle venait de Paris. Hein, elle avait pas froid aux yeux. Et qu'elle avait travaillé aux Folies Bergères.
C'était pas vrai.
C'était pas vrai du tout. Alors, le directeur l'a embauchée en l'affichant en tant que Mademoiselle Fifi. Pour faire chic, pour faire exotique.
Et le reste, c'est de l'histoire.
Le reste est historique. En 1995, le romancier et essayiste ontarien Robertson Davies, grand écrivain. Et finalement, en 2014,
un autre grand
dans
un autre domaine.
Oui, mais dans tous les sens du terme.
Ah, oui,
grand physiquement et grand au sens
grand
figuré.
Joueur.
Grand joueur, grand homme aussi, Jean Béliveau.
Ah.
En 2014, déjà 11 ans.
C'était quoi le numéro de son chandail?
4.
Ouais, bravo. Bien, c'était super, ça. En ce 2 décembre, on en a appris des choses grâce à vous, André. C'est votre dernière chronique de l'année?
De l'année, effectivement.
Bien, permettez-moi de vous souhaiter joyeuses fêtes.
Ben, à vous aussi, là.
Merci. Et à tous les auditeurs, auditrices, j'imagine.
Absolument. On se retrouve avec grand plaisir en janvier.
Parfait. À bientôt. Bien, à bientôt, oui.
À bientôt.
Relativement bientôt. On va prendre le temps de finir l'année, de faire ce qu'il faut pour
revenir en forme.
Se sustenter et se reposer. Oui,
voilà.
Revenir en forme. Merci.
Bye-bye.
Quotidien, on est ensemble jusqu'à 11 heures. À venir dans la prochaine demi-heure, la chronique économie avec Michel Poit. 20. Ça va bien ce matin. J'ai la bouche gelée. Et puis, une rencontre avec Catherine Souffron d'Arbouze pour parler de la 20e édition de Revue Corrigée 2025 qui bat son plein en ce moment.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Et merci beaucoup de le faire. C'est la chronique économie en compagnie de Michel Poitvin, qui est professeur en sciences économiques à l'Université de Montréal. Ça va, Michel?
Ça va bien, Hélène, et vous?
Oui, ça va, merci. Alors, on a annoncé ce matin une transaction importante dans le secteur bancaire.
Mais oui, la banque Laurentienne, qui est une des grosses banques québécoises, a été vendue à une banque qu'on ne connaît pas beaucoup, la banque Fairstone.
Non, en effet.
Qui est installée plus longtemps au Canada, mais se spécialise surtout dans les prêts commerciaux. Alors, c'est peut-être pour ça que, comme consommateur, on la connaît moins. C'est une transaction qui est évaluée à 1,9 milliard de dollars, ce qui correspond à une prime de 20 % sur le prix de l'action de la Banque Laurentienne hier. Mais c'est pas tout. La Banque Laurentienne est à œuvre dans plusieurs domaines. Tout son portefeuille de services bancaires aux particuliers, aux PME, a été acheté ou va être acheté par la Banque nationale. Donc, la Banque nationale acquiert tous les dépôts, les prêts des particuliers et des PME, mais pas les employés ni les succursales. On nous dit qu'il y a environ 2800 personnes qui travaillent à la Banque Laurentienne. Ça ne veut pas dire que tous ces employés-là vont perdre leur emploi parce que, comme je vais en parler un peu plus loin, là, mais il y a plusieurs activités de la Banque Laurentienne qui vont subsister. Donc, les employés qui sont dans ces secteurs-là vont conserver leur emploi. L'autre chose, la Banque nationale va acquérir ce qu'on appelle des prêts syndiqués. Donc, les prêts syndiqués, c'est lorsqu'on a un syndicat de prêteurs, donc un consortium de prêteurs qui prêtent. Puis souvent, ça, ce sont pour des gros projets. On va prêter de l'argent. Puis comme c'est un gros projet, les banques se mettent plusieurs ensemble pour diversifier le risque pour prêter. Donc, c'est ce qu'on appelle un prêt syndiqué. Mm-hmm. Ça va également à la Banque nationale.
Et Michel, qu'est-ce qui va advenir de la Banque Laurentienne?
Bon, la Banque Laurentienne va devenir spécialisée en financement commercial, ce qui rejoint un peu là, son acheteur Fairstone. Donc, financement commercial, c'est quoi? Il y a des prêts immobiliers commerciaux, le prêt pour inventaire et équipement, puis des activités sur le marché des capitaux. Selon le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, Éric Provost, qui va conserver son emploi, Le rapprochement avec Fairstone va permettre d'accroître faire croître les activités commerciales de la Laurentienne à travers tout le Canada. Puis, chose importante, la Banque Laurentienne va conserver son image de marque, puis le siège social de la banque va rester à Montréal. Donc, la Banque Laurentienne ne disparaîtra pas, si vous voulez. C'est juste qu'elle va avoir un propriétaire différent, qui est la banque Fairstone. Puis, pour Fairstone, déjà, c'est un prêteur important au pays. Donc, acquérir Laurentienne, ça va lui permettre d'accélérer sa croissance en immobilier commercial, puis surtout au Québec où Fairstone était un peu moins présent. Puis Fairstone juge que le Québec, c'est un marché qui est important stratégiquement. Donc, le président, là, Scott Wood de Fairstone, a dit qu'il considérait le Québec comme un marché clé. Ils sont ravis de continuer à établir sa présence grâce à l'expertise qu'il acquiert avec la Banque Laurentienne, qui a quand même une expertise forte au Québec. Peut-être on peut mentionner, c'est pas coulé dans le béton, là. Quoique avec une prime de 20% sur les actions, les actionnaires devraient voir d'un bon œil cette transaction, mais l'accord de vente doit être approuvé par au moins 2/3 des actionnaires de la Banque Laurentienne. Et notre caisse de dépôt détient 8% des actions de la Banque Laurentienne, puis elle s'est engagée à soutenir la transaction, mais à certaines conditions. Un, c'est le maintien du siège social de la Banque Laurentienne au Québec, et deux, le déménagement du siège social de Fairstone à Montréal. Ce qui va être peut-être un peu plus compliqué, on verra. Bon, oui. La Caisse pose ces conditions-là, mais elle détient seulement 8% des actions. C'est un gros actionnaire de la Banque Laurentienne, mais il y en a d'autres. Alors, est-ce que ça va jouer dans la balance? On verra quand ça va être soumis au vote des actionnaires.
Et pour terminer, Michel, l'OCDE publie ses prévisions de croissance.
Oui, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. C'est une organisation internationale qui est basée à Paris. Elle publie entre autres des études sur la santé de l'économie mondiale, puis aussi elle détaille par pays. Ce qu'elle a remarqué, c'est que l'économie mondiale, malgré le choc des droits de douane américains puis les incertitudes politiques et tarifaires, l'économie mondiale a résisté quand même assez bien en 2025. Puis là, elle se montre plus optimiste qu'elle l'a été dans ses prévisions passées pour des pays importants, des poids lourds, comme elle le dit, les États-Unis, la Chine et la zone euro. Mais en même temps, tout ça, c'est fragile, mais il y a quand même un optimisme. Pourquoi l'économie mondiale a été plus résiliente? On avait peur d'un ralentissement à cause des guerres commerciales. Ce qui est arrivé en début d'année, on a anticipé les droits de douane. Ça a stimulé beaucoup l'économie parce que les gens se sont dépêchés d'acheter ou de vendre à l'étranger avant l'imposition des droits de douane. Donc, paradoxalement, l'annonce de la guerre commerciale a stimulé pendant un certain moment les échanges commerciaux. Il y a aussi beaucoup d'investissements à l'échelle mondiale, surtout aux États-Unis, mais ailleurs également en Chine, en Europe, des investissements qui sont liés à l'intelligence artificielle. Puis on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est le nouveau bonanza? Est-ce que ça va transformer nos économies? Les gens sont divisés là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a énormément d'investissements dans ce domaine-là. Donc ça aussi, ça stimule la croissance de l'économie mondiale. Et puis, un peu comme à l'instar du Canada, il y a beaucoup de banques centrales qui ont commencé à baisser leurs taux en 2025. Nous, on l'a vu, la Banque du Canada a réduit significativement son taux d'intérêt au cours de l'année. Ça s'est fait également dans d'autres pays. Puis enfin, il y a beaucoup de politiques de gouvernements qui ont des politiques budgétaires assez importantes, qui ont peur que les droits de douane affectent leur économie, donc ils dépensent beaucoup, notamment, on l'a vu avec le budget fédéral au Canada. C'est la même chose dans d'autres pays. Donc, tous ces facteurs-là ont fait que l'économie mondiale a pu subsister. En 2024, la croissance mondiale était de 3,3%. On s'attend à ce qu'elle soit 3,2% en 2025, donc assez proche. Puis l'OCDE prévoit une croissance de 2,9% en 2026 et 3,1% en 2027. Donc ça, c'est à l'échelle mondiale. pour différents pays. Bon, on ne passera pas tous les pays. Je pensais parler des États-Unis puis du Canada. Aux États-Unis, on avait les économistes disaient, avec les droits de douane, l'économie américaine va piquer du nez, mais on ne semble pas le voir encore. L'OCDE prévoit une croissance de 2 % pour 2025. Bon, l'année achève, mais on n'a pas toutes les données encore, puis 1,7 % en 2026, puis 1,9 % en 2027. C'est sous la croissance mondiale, mais en même temps, les États-Unis, c'est un gros pays développé. Alors, les gros pays développés croissent moins vite que des pays en développement comme la Chine ou les pays du sud-est asiatique, l'Inde, le Brésil, etc., qui, eux, tirent à la hausse la croissance mondiale moyenne. Au niveau du Canada, on est un peu en deçà des États-Unis. On s'attend à 1,3 % de croissance en 2026 et 1,7 % en 2027. Par contre, on dit qu'au Canada, les taux d'intérêt ont baissé. L'inflation devrait rester proche de 2 % selon l'OCDE. Et puis, le gouvernement soutient l'économie. Alors, on espère que avec tout ça, l'investissement des entreprises va reprendre et que la consommation des ménages, qui est aussi un facteur de croissance, va progresser là, à mesure que l'incertitude tarifaire va se dissiper.
Oui. C'est beaucoup bon, ça, l'économie. Ouais. On verra à suivre, on espère.
Et c'est ça. Donc, en attendant, on pense à aux emplettes de Noël.
Oui. En tout cas, on y pense et puis on les budgète également?
Exactement. Ouais. Il faut... parce que c'est ça, 2026, qu'est-ce que ça va nous réserver? Là, il y a l'accord de libre-échange avec les États-Unis qui va être renégocié en 2026. Espérons que ça va bien aller, mais on sait que toute négociation avec... nos amis d'en bas n'est pas toujours facile.
Absolument. Grand merci, Michel. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
Thank you.
by Sherry Amour, c'était Stevie Wonder.
Quelle belle chanson! Est-ce que vous l'appréciez, Catherine
Souffron-Darboux? C'est tellement drôle parce que je jouais, parce que mon Spotify était sur shuffle, puis ça jouait tantôt dans mon auto en m'en venant, puis je suis plus capable de l'entendre, mais franchement, parce que je l'écoutais beaucoup, parce que je la chante, j'interprète un morceau dans Revue et Corrigé. Mais oui, c'est une chanson iconique que j'adore, que j'aime beaucoup la réaction qu'elle suscite chez les gens, mais oui, personnellement, j'ai peut-être eu ma dose là, pour les prochaines semaines.
Mais là, vous avez même changé les paroles là, pour le sketch.
Oui.
Et puis là, maintenant, moi, j'ai plus l'autre... l'autre version dans la
qu'on
tête.
On ne va pas divulgacher ici,
il faudrait pas.
C'est taquin, je pense que c'est drôle. Les gens trouvent ça bien drôle.
Alors, Catherine Souffron-Darboux, pour les gens qui se disent « oui, ça me dit quelque chose », ben j'imagine que son nom vous dit quelque chose puisqu'on la voit dans L'œil du cyclone, dans La caille nous, elle chante également. Et puis là, c'est la nouvelle recrue de la 20e édition de Revue et Corrigée qui est présentée au Théâtre du Rideau Vert. C'est l'espèce de bye-bye au théâtre, une initiative de Denise Filiatreau, qu'on voit d'ailleurs sur la scène, imitée par extrêmement bien Marc Saint-Martin. Ça va tellement bien qu'il y a déjà des supplémentaires qui sont annoncés. Encore et encore, il y a toujours des nouvelles supplémentaires. Là. On en parlera vers la fin de l'entrevue, Catherine. Alors vous, comment c'est arrivé là, cette participation? Qui vous a appelé? Est-ce que c'est Denise Filiatreau, Benoît McGuinness?
Non, je crois que c'est la metteur en scène, Nathalie. Ben, c'est passé par mon agent. On m'a proposé de passer une audition là, pour participer. Ils cherchaient une addition à leur belle troupe. Donc, j'ai passé à travers un petit processus de deux auditions où j'ai dû concocter moi-même un numéro où je devais chanter, danser, imiter, jouer.
Pendant tous les talents.
Puis j'étais comme... Puis fallait... ma première audition, il fallait que moi-même, je compose, je concocte quelque chose. Je peux vous dire que c'était du sport!
Oh oui! Alors,
mais
quand vous dites qu'il fallait que vous concoctiez quelque chose, c'était quoi exactement?
Bien, c'est-à-dire que c'était un free-for-all. C'était de dire, ta première audition, tu fais ce que tu veux, mais montre-nous ce que tu es capable de faire un peu.
Ah oui!
J'ai jamais vu ça.
Donc, vous avez été convaincante, si je peux bien comprendre.
Je peux pas répondre à ça, mais je peux dire que...
On vous a choisi.
On m'a choisi, et je pourrais pas être plus heureuse.
Et là, vous travaillez avec une belle équipe, les auteurs, autrices, la metteuse en scène que vous avez nommée, Nathalie Lecomte, les acteurs, actrices, Pierre Brassard qui chante, qui danse aussi, Benoît Paquette, Monica Pilon, Marie-Ève Sansfaçon, Marc Saint-Martin, des vieux de la vieille. Là. Est-ce que vous vous sentiez comme un chien dans un jeu de quilles quand vous êtes arrivée?
Bien honnêtement, je pense qu'il y a quelque chose qui est symptomatique de ma vie. Donc, c'est-à-dire que j'ai le bonheur de me retrouver sur des plateaux, dans des arènes, avec des gens que j'admire, que je regarde des fois depuis que je suis petite, ou des gens avec une expérience extraordinaire. Donc, c'est pas quelque chose qui... c'est pas la première fois, tu sais, que ce soit L'œil du cyclone ou La caille nous. Je travaille avec des gens, des pros,
d'expérience.
Fait que c'est vraiment... C'est extraordinaire.
Puis ça vous fait pas paniquer? Ça vous fait pas figer?
Ça me fait pas figer, non. Ça peut être intimidant, parfois, un tout petit peu au début. Mais à quelque part, moi, là, dans la vie, je suis une fille qui essaye des affaires. Pour essayer des affaires, faut sortir de sa zone de confort.
Ouais.
Puis je tiens à le dire, pour vrai, cette gang-là, c'est des vrais gentils. Ils étaient contents de me recevoir. Tu sais, des fois, dans une famille, il y en a une gang qui a une nouvelle petite sœur ou un nouveau petit frère.
On n'est pas sûrs.
Puis ils sont pas sûrs, puis ils voulaient pas vraiment, puis c'était plus maman puis papa. Mais là, je sens que tout le monde était vraiment partant pour avoir une nouvelle petite sœur dans l'équipe. Puis l'accueil que j'ai eu, tu sais, les imitations que je fais, tout le monde m'a aidé, tout le monde s'entraide. Tu sais, Benoît Paquette, c'est un vrai imitateur, là.
Excellent, d'ailleurs.
Il m'a vraiment, vraiment aidé à travailler mon boucard, me donner des trucs. Fait que, Non, je me suis sentie vraiment très accueillie.
Boucan, c'est un des clous de la soirée, là.
Oh, mais merci!
J'étais à côté d'un de mes amis, ancien réalisateur à Radio-Canada, qui me disait c'est la révélation. C'est tellement un bon numéro. Est-ce que ça a été long à trouver votre Boucan? Vous dites que vous avez eu l'aide de
Benoît. J'ai eu l'aide de tout le monde, tu sais. Puis c'est vraiment... si ça a été long, je pense que c'est vraiment un processus. Il a évolué beaucoup, mon Boucan. Au début, il fallait quand même... Je me déjà scène, là. Tu sais, c'était comme, ça prend du temps de prendre sa place, tu sais. Puis je pense que moi, dedans, je fonce, j'y vais, mais des échos que je reçois, je parlais aux gens, tu sais, qui m'ont vu évoluer au travers de ce dernier mois et demi. Puis ils sont comme, ah, on est tellement fiers de toi, de te voir. On le voit que dans les deux dernières semaines, tu as pris du galon, tu prends ta place. Moi, j'ai pas nécessairement ce recul encore, mais c'est sûr que je peux dire que je carbure quand même au public. C'est un nouveau contact pour moi. Puis d'avoir fait, on a pu pas roder le show, on l'a fait durant la dernière semaine, avant la dernière médiatique. Mm-hmm. On a eu une générale aussi. Mais ce contact avec le public m'a aussi donné comme une permission. C'est comme on sent l'envie de rire, le cœur ouvert, on sent la joie de retrouver Boucard. Puis ça, c'est pas attribué à moi. Les gens aiment Boucard, puis je suis chanceuse parce que je reçois aussi cet amour-là.
Absolument. C'est attribué à Boucard, mais c'est attribué à vous parce que vous faites un Boucard tout à fait crédible.
Mais merci.
Est-ce que le danger, c'était d'aller trop dans la caricature ou... Trouver le dosage pour que ça soit parfait, parce que...
On n'est pas dans une perfection. Je pense qu'on
est dans un sketch.
On est dans... Oui, puis on est dans une imitation qui est faite avec amour ou... C'est-à-dire, tu sais, Benoît, par exemple, c'est un imitateur de carrière. Lui, il est dans une précision, là.
Il fait un Richard La Tendresse.
Écœurant. Un Mark Carney de fou, là. Je veux dire, tu fermes les yeux, puis tu as vraiment l'impression de l'entendre.
Oui.
Pour moi, je pense que, et certains autres de mes collègues aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher certains traits précis de la personne qu'on tente de perfectionner. Puis à partir de ça, on brode autour et ça donne quelque chose de quand même crédible.
Ouais.
Est-ce que c'est une imitation à la perfection fidèle? Je sais pas, mais je pense qu'on entend le personnage, puis c'est fait, on sent l'énergie aussi du personnage, puis c'est ça qui fait sourire.
Oui, et il n'y a pas de prothèse exagérée, parce que, bon, j'imagine qu'on compare souvent le revue corrigé au bye-bye,
ouais.
qui mise beaucoup sur les prothèses,
oui,
pour rendre crédible le personnage. Il y a aussi les acteurs-actrices qui sont bons dans les imitations, mais il y en a qui sont moins... qui sont pas des imitateurs de métier, là.
Tout à fait. Mais je pense que c'est super intéressant.
Mais c'est plus simple sur la scène, je trouve.
Oui, il y a une simplicité qu'on s'accorde parce que c'est pas les mêmes médiums, c'est pas les mêmes codes. En télé, on est habitué à un réalisme. Je pense que les prothèses viennent avec ça. Au théâtre, il y a comme on se donne une permission que l'imaginaire est fait partie du jeu. Fait que oui, tu sais, comme on me voit arriver en boucard, on sait que je suis une fille, on sait que, tu sais, puis on l'accepte.
Ouais.
Donc il y a cette convention-là qui est peut-être qui nous donne une petite marge de manœuvre au théâtre.
Et parmi les personnages que vous jouez, est-ce que c'est Boucard qui est votre coup de cœur, votre préféré? Est-ce que vous avez toujours hâte d'arriver sur la scène pour le présenter au
Honnêtement,
public?
Honnêtement, j'ai toujours hâte à chacun de mes numéros,
oui,
sincèrement. Ah oui. Puis,
nous, on a toujours hâte de vous voir parce que vous êtes présente, mais on voudrait que vous le soyez davantage.
Ah, oh, ben c'est gentil. J'ai une partie...
Et c'est pas de la flagornerie, là.
Ben...
Ah, votre Myriam Fimio de l'épicerie... C'est assez, ça nous rentre dedans. En tout cas,
oh,
ça...
merci.
Oui, oui, c'est efficace.
Mais tu sais, je dirais que pour une première année, la partition que j'ai est plus qu'en masse pour moi parce que c'est de la job. Puis je regarde mes collègues aller, là. C'est des machines, là, tu sais, fait que...
Parce qu'il n'y a pas une seconde où vous pouvez vous asseoir puis dire, ben le prochain numéro. Vous êtes toujours...
Il n'y en a pas beaucoup.
Dans les coulisses, ça se passe dans les coulisses et sur la scène parce qu'il faut changer quand même de costume.
Puis on aide aussi au changement de décor dans les noirs.
Ah oui,
aussi, puis
participer à ça.
Peut-être le bout que moi, qui m'a le plus surpris puis qui me fascine, moi, c'est... Oui, on a bien des chorégraphies sur le stage en avant-scène, mais en arrière-scène, si vous voyez les chorégraphies...
Ah, j'adorerais ça, moi, ça.
C'est fascinant. Les deux habilleuses, Geneviève et Mélanie, c'est des artistes. Ils se chronomètrent, time, les changements de costume.
Geneviève
attachés,
et Mélanie...
Qui sont les habilleuses.
OK, d'accord.
Exact. Et attacher des boutons en arrière-scène, c'est un concept qui n'existe pas. Tous les costumes sont trafiqués avec du velcro.
Oui.
Tout est collé en un morceau pour qu'on puisse mettre ça le plus rapidement possible. Tu peux porter un suit, mais dans le fond, il est attaché en arrière par un zipper, la chemise, la cravate. Tout est collé. Fait que c'est tellement burlesque d'une certaine façon, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup impressionnée.
Ah oui, ça serait bien de voir l'envers du décor un jour.
On est un peu tout nous, par exemple, en arrière, parce qu'on est tout le temps en train de se changer, mais oui, il faudrait qu'on trouve un moyen.
Et quel aspect du processus de création vous a demandé le plus d'adaptation?
Je dirais que deux choses. Le public. tu peux pas parler. Si le public rit, puis c'est ce que tu veux, hein, tu peux pas vraiment continuer. Mais en même temps, faut pas que tu t'étales trop, puis que le numéro devienne tellement long à non plus finir.
Il y a un bon dosage à trouver.
Une
là.
Valse, puis à chaque soir, faut s'adapter. Puis sinon, c'est aussi la convention de parler un peu plus fort puis de pas faire dos au public. Tout ça, pour moi, c'est pas très... Je suis pas familière avec ça. La dernière fois que j'ai fait du théâtre, j'avais 15 ans. Fait que,
OK, d'accord. Vous êtes pas vieille, là, mais ça fait quand même plus que 10 ans, j'imagine.
Oui, plus que 10 ans. Fait que je dirais ça.
Et vous êtes aussi chanteuse?
Oui.
Et
je dis ça parce que c'est comme pas assumé. Tu sais, je chante. Moi, je joue, je chante, j'écris, mais on dirait que je me colle pas nécessairement l'étiquette. Mais oui, là, j'ai une nouvelle chanson qui vient de sortir, justement.
Oui, qui s'intitule...
Wish You Well.
Oui, qu'on va pouvoir entendre pas avant 10h30, mais au retour de 10h30, on va l'écouter avec grand plaisir à la fin de cette entrevue parce que j'ai encore d'autres questions à vous poser. Est-ce que le meilleur conseil qu'on vous ait donné pendant les répétitions, quel serait-il?
Ah, c'est une bonne question. Le meilleur conseil, je dirais que c'est amuse-toi. Parce que là où est le plaisir pour nous, c'est souvent là qu'il va l'être pour le public. C'est là qu'elle va être la drôlerie. Fait que c'est se donner cette permission-là d'essayer des affaires puis de pas avoir peur d'avoir de l'air.
Mais ça a l'air de faire partie de votre nature. Cette confiance. Non, parce que vous dites tantôt, j'aime ça, essayer des affaires.
Oui, mais essayer des affaires, le courage n'empêche pas la peur.
Ouais,
n'empêche
ça
pas
va
la
avec.
Peur de du ridicule, la peur de l'échec. C'est juste que j'y vais pareil, parce que je suis consciente que j'ai une vie à vivre, puis je veux tout faire ce que j'aimerais ça. J'ai tellement. Je veux pas arriver sur mon lit de mort, puis être comme, ah, j'aurais aimé essayer ça. Non, non! Peut-être que ça n'aura pas marché comme je voulais, là, mais je vais l'avoir essayé.
Est-ce que c'est cette façon de penser-là qui a fait qu'un jour, vous vous êtes dit, moi, j'arrête d'être procureur de la Couronne,
exact.
Vous êtes avocate,
oui.
Puis vous avez décidé d'être une artiste?
Tout à fait, tout à fait. Moi, je suis quelqu'un qui, d'une façon absolument pas morbide, je pense souvent à la mort. Et je me dis, sur mon lit de mort, qu'est-ce que je risque de regretter? Je suis comme, pourquoi attendre à l'orée de la mort pour avoir ces réflexions-là? Ça devrait nous nourrir à toutes les étapes de nos vies. Puis moi, c'est quelque chose qui était tellement limpide, je le savais que j'allais le regretter de ne pas avoir essayé de devenir une artiste. C'est ça. Donc, c'était un regret qui était tellement clair. Une fois que ça s'est cristallisé, je savais d'ores et déjà que je devais quitter mon travail de procureur. Puis au pire, là, je peux redevenir avocate, je peux redevenir...
Vous êtes toujours membre du barreau?
J'ai arrêté cette année
de
devenir membre du barreau. Je me suis dit, j'ai dit à mes parents que je quittais pour une année sabbatique, ça fait 7 ans. Je pense qu'on peut lâcher le morceau. Là. Je suis très bien dans ma vie d'artiste.
Aucun regret, donc.
Oh, aucun regret.
Et puis là, est-ce que comment vous faites l'alliage entre... on disait tantôt, vous êtes chanteuse et de plus en plus chanteuse.
Oui.
Et aussi votre métier de comédienne.
Oui.
Est-ce que c'est difficile d'allier les deux?
Je dirais pas que c'est difficile parce que moi, au départ, quand j'ai quitté ma job d'avocate, j'ai dit aux gens, je voulais écrire, jouer, chanter. Parmi d'autres choses, peut-être réaliser un jour, je ne sais pas. Je veux juste essayer des affaires. Fait qu'après, je comprends qu'on vit dans un monde, il faut se donner des titres, il faut se donner des noms. Donc oui, je suis chanteuse, je suis comédienne, mais franchement mal à l'aise avec tous ces titres.
Okay.
Moi, je suis juste une fille qui veut créer. J'aime écrire, j'aime chanter, j'aime jouer au théâtre, à la télé. C'est ça qui m'anime. C'est de la lumière qu'on donne, qu'on transforme, puis c'est ça que je veux faire. Fait que pour moi, c'est différents véhicules, mais c'est un peu la même affaire.
En ce moment, vous pouvez justement utiliser tous vos talents dans Revue et Corrigée parce que vous chantez. On aimerait vous entendre davantage, mais
merci.
Ça viendra peut-être l'année prochaine. Qui sait, vous dansez, vous jouez, vous imitez, vous évoquez. Et alors, c'est comme complet, là. J'imagine que c'est un grand cadeau, ça.
C'est un immense cadeau et un immense défi. c'est tout ça en même temps parce que, tu sais... Revue et Corrigée, c'est une bibitte à part entière. Là. On commence les shows, on n'a pas tous les textes. Les textes sont écrits au fur et à mesure.
Oui, il faut toujours s'ajuster.
Fait que, tu sais, tout le monde rit dans la gang parce qu'ils sont comme, tu sais, t'as décidé de commencer avec du théâtre avec sûrement l'affaire la plus weird sur le marché, tu sais, dans le sens où... Fait que c'est vraiment... Mais c'est extraordinaire, tu sais, parce qu'on danse, on chante, on joue, puis je suis vraiment comblée.
Alors, il faut voir Revue et Corrigée. C'est une belle cuvée, belle édition, 20 ans déjà. Et il y a des représentations supplémentaires, comme je le disais tantôt, ajoutées. 3 janvier, 4 janvier à 15 heures. Et une autre aussi, il y en a 3 en tout. Je dis le samedi 3. Ah, le mercredi 7 janvier à 19h30. Hey, ça vous demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Reposez-vous bien, mangez bien.
Merci.
Et ben, le fait que vous ayez du plaisir, ça, ça donne aussi de l'énergie, que vous
Absolument.
Vous entendez bien avec toute l'équipe. Alors, Revue Corrigée qui est présentée au Théâtre du Rideau Vert. Les billets sont en ligne, disponibles en ligne ou par téléphone. Merci beaucoup,
Merci
Catherine
à
Souffron d'Arbouze.
Merci.
Bonne continuation.
Merci.
Vous écoutez Au quotidien avec Hélène Denis.
Didn't mean to ghost you. I just didn't know what to say. I didn't mean to ghost you. But you left me speechless, broken in pieces. You wrote me the sweetest, the sweetest of messages to tell me you love me, or at least that you try. Still feel like a lie, 'cause you cannot love me the way I love you. I put my trust in you, they told me not to. What part of us was true? Well, I'm starting brand new.
La très belle voix de Catherine Souffron d'Arbouze, Wish You Well, qu'on a rencontrée avec beaucoup de plaisir. Catherine, comédienne chanteuse qui s'est joint à la distribution de Revue et Corrigée, 20e année. Et je parlais de supplémentaire, je voulais juste être claire, là, c'est le samedi 3 janvier à 20h, dimanche 4 janvier à 15h et le mercredi 7 janvier à 19h30. Ils sont bien occupés et les billets sont en vente en ligne ou par téléphone au 514-844-1793. C'est la chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Aujourd'hui, vous nous présentez 3 livres jeunesse pour enfants, quoi, un petit peu dissipés ou comment? Vous les présentez?
Des gens qui ont besoin d'être actifs même quand ils lisent.
OK. Alors, oh, vous commencez avec...
La chasse aux indices.
Oui, oui.
En fait, je présente une collection qui est amusante, qui s'appelle Zèbre à roulettes, publiée chez Bayard, dans laquelle on a ajouter au milieu d'un chapitre un jeu, une chasse au trésor, un labyrinthe, un quiz, pour que l'enfant, même dans sa lecture d'un mini-chapitre, prenne une pause, fasse autre chose, tout en contribuant à essayer de découvrir l'énigme, parce que chacun des titres que je propose, il y a finalement une énigme à résoudre. Alors, Chasse aux indices, c'est écrit par Martine Latulippe, qui a publié plus de 100 livres déjà dans sa carrière.
Wow.
Et c'est illustré par François Samson Dunlop, qui est un bédéiste québécois très jeune. Et puis, il va justement donner beaucoup d'expressions aux personnages, comme fait, par exemple, un bédéiste dans une case, ils doivent faire sentir les émotions, on les sent très bien dans les illustrations. Et qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Lou qui boude parce que ses parents ont décidé qu'ils quittaient l'appartement où ils vivaient en ville pour aller acheter une maison en campagne à Val-d'Éry. Et puis là, elle se dit que c'est quoi l'idée? Il me semble qu'on était bien là-bas, j'aimais ma chambre. Tout à coup, elle arrive dans la fameuse maison qui est très grande, effectivement, et se dirige tout de suite dans sa chambre où elle va trouver un coffre dans une espèce de placard dans lequel il y a un casse-tête. Et une fois qu'elle fait le casse-tête, elle voit que c'est un cabanon. Puis elle se dit, mon Dieu, ça doit être le cabanon qui est ici dans la cour, effectivement. Elle va se rendre au cabanon, va trouver là un autre indice et de place en place, comme ça, va résoudre une énigme, parce qu'elle a là à comprendre pourquoi il y avait ça là, ce qui est très amusant, la fin est très positive, mais aussi ça permet de comprendre comment un enfant peut s'adapter, mettre un peu de bonne volonté quand il y a un changement qu'il n'a pas choisi. Et elle comprend un peu à peu que c'est vrai que sa maman va être bien mieux là pour faire du télétravail que sur la table de la cuisine, puis que oui, le papa va beaucoup apprécier le sous-sol et tout ça. Les parents sont tellement enthousiaste qu'elle peut pas faire autrement. Alors, chaque chapitre est très court. Il y a des mots en caractère gras dans le texte pour finalement attirer l'attention du lecteur qui serait un lecteur moyen, disons. Et les personnages principaux sont présentés au début sur des petites fiches avec leur nom, puis un petit peu leurs caractéristiques. Ce qui fait qu'on a l'impression d'entrer dans un jeu autant que dans une histoire à lire. Donc, c'est bref. Et puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand on commence un nouveau chapitre à la page de droite, à la page de gauche, il y a un tout petit résumé comme sur un petit papier autocollant qui, en 3-4 lignes, résume le chapitre qu'on vient de lire. Fait que si l'enfant s'interrompt et revient à la lecture, il n'est pas complètement perdu. On fait tout, finalement, pour qu'il aime ça puis qu'il continue. Ça peut aider les enfants qui sont qui ont du mal à se concentrer, moi je pense en tout cas, pour l'avoir exploité, cette collection-là fonctionne beaucoup. Puis dans la même collection, je propose un autre titre écrit par Réa Dufresne qui s'intitule « Au voleur capitaine ». Là, on change de lieu, là. On est rendu dans la piraterie à bord d'un bateau. Et ça, c'est un domaine que Réa Dufresne connaît bien parce qu'elle a fait des albums, la série Sven le Terrible, qui est un pirate, un album illustré par Orbi. Là, dans un public qui pourrait avoir lu Sven le Terrible pourrait aller dans ça et se retrouver avec ce titre-là, où elle met en scène une petite fille qui est capitaine. Elle s'appelle Marine. Elle a le nom qu'il faut. Tout l'univers maritime, c'est l'univers de Réa Dufresne qui est née en Gaspésie, au bord de la mer. Donc, elle est familière avec tout ça. Elle dit qu'elle a passé tellement de temps à marcher sur les rivages quand elle était petite. Tout ça l'a marqué. Donc, elle a publié ce titre-là qui va plaire, je crois, aux garçons qui aiment les histoires de pirates, là. Et puis, mais c'est une fille, l'héroïne, donc ça va plaire aux filles aussi. Et là, elle est à bord du bateau, elle accepte quelqu'un nouveau qui veut venir pour apprendre c'est quoi être un pirate. Et là, il se passe des vols à répétition, à chaque chapitre presque. Et là, il faut trouver le coupable. Et c'est là que l'intrigue commence, les indices. L'enfant donc peut donc être attentif pour voir qu'est-ce que c'est qui se passe, qu'est-ce que c'est, quel personnage on pourrait soupçonner. Alors, tout ça, dans le but, évidemment, de faire des voyages pour aller trouver des trésors. C'est une histoire très dynamique que Réa Dufresne raconte et qu'elle maîtrise très bien, avec un ton qui correspond tout à fait aux jeunes lecteurs. Et puis, chaque chapitre offre une pause, là aussi, avec des jeux amusants. Il y a beaucoup de dynamisme aussi dans le graphisme, parce qu'à un moment donné, ils sont en parcours de nuit, ça se passe la nuit. Donc, ils ont imprimé la typographie en blanc sur des pages noires, ce qui nous fait comprendre qu'on est de nuit, effectivement, ça change l'éclairage. Et puis il y a aussi des passages amusant. Puis la conclusion est toujours positive. C'est ce que je remarque dans ça. On va pas aller pendre le coupable, c'est pas ça du tout. Quand on comprend le dénouement, ben c'est quelque chose qui finalement est pas trop, on peut pas rendre la personne plus coupable qu'il le faut parce qu'elle avait une bonne intention derrière tout ça.
Ça partait d'une bonne intention.
C'est ça. Donc, c'est une collection là, qui est très, très dynamique pour des lecteurs moyens. Si on veut les tenir occupés, ils vont s'amuser à faire les jeux, puis ils vont aussi observer les illustrations, plein de petits détails. Je pense qu'on peut séduire un lecteur qui est justement quelqu'un qui n'est pas trop attentif, qui a peut-être un déficit d'attention avec ce type de
livres
et aussi les thèmes peuvent plaire. Tu sais, par exemple, l'action, les voleurs dans Voleur Capitaine. Puis dans l'autre, ben, des enfants qui ont été peut-être échaudés par des déménagements qu'ils n'ont pas choisis ou en tout cas des changements difficiles. Fait que ça peut en même temps les toucher. Du moins, c'est ce qu'on espère.
Chasse aux indices et au Voleur Capitaine, deux livres publiés aux éditions Bayard. Et vous terminez avec Comment ça marche, une enquête aux éditions 400 coups.
Alors ça, c'est très amusant. C'est un livre de l'auteur et illustrateur Olivier Dupin qui avait fait, il y a un certain temps, Comment ça marche un conte. Et puis là, il s'est amusé à aller sortir des personnages classiques des contes. Et ben dans ça, ici, il s'amuse à défaire finalement la structure d'un policier avec une enquête, finalement un texte policier. Alors, à ce moment-là, on peut appeler ça, ce livre-là, un documentaire, mais à la fois un récit, parce que ça se lit à deux niveaux. Page de gauche, on a des informations sur les éléments d'un texte à caractère policier. Page de droite, on a une BD qui met en scène des poules. Et puis là, ben, il y a un récit qui est finalement en parallèle avec les éléments qui nous sont annoncés à gauche. Je m'explique. Supposons qu'on veut parler de ce que c'est quoi un récit policier. Ça prend d'abord un crime. Et le crime, on l'a ici à la première page. C'est la poulette qui s'appelle Nadine, qui a été assommée. Et puis les œufs qu'elle a pondus sont disparus. Fait que les autres poules constatent le crime. Et à partir de là, donc, l'enquête va commencer. Donc, on a un dessin sur quatre. Il y a quatre cases où on voit finalement la poule victime. Là, lorsqu'elle s'éveille, elle se souvient de rien parce qu'elle était assommée. Là, il faut trouver qui a fait ça. Alors là, ils disent, on va aller maintenant à la recherche. Ça prend un enquêteur. La deuxième étape, on va trouver un enquêteur. Ensuite, ça prend des témoins qui vont témoigner de ce qu'ils ont vécu. L'autre page, on a des indices. Qu'est-ce que c'est un indice? Alors, on explique à l'enfant, par exemple, à la page de gauche, il s'agit d'un détail, un objet, quelque chose qui va aider l'enquêteur dans ses recherches. À partir de ces indices, l'enquêteur peut imaginer des pistes à suivre et il va émettre des hypothèses. Donc, là, on a ça. On a donc des indices. On va poursuivre avec finalement des suspects parce que là, on va faire des hypothèses, on va trouver des suspects qui ont des alibis. Parfois, ils vont donner des fausses pistes aussi. Il va, avant de trouver un coupable, ben là, tout ça crée un récit plein de suspense, d'action. Et il y a un tout petit poussin qui est là, qui est comme oublié, mais qui, lui, a des bonnes idées, puis il veut s'exprimer, mais les poules qui sont adultes disent non, 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 non. Évidemment, on comprend que dans les suspects, il va y avoir le renard, il va y avoir le loup, il va même y avoir un ours, mais chacun va trouver un alibi pour se défendre. Bref, c'est avec une fin un peu imprévisible et surprise à la fin, que l'enfant va découvrir, bon, le résultat de l'enquête, mais aussi une personne plus grande peut s'en servir pour comprendre c'est quoi les éléments d'un roman policier, qu'est-ce que ça prend pour écrire un polar, qu'est-ce que ça prend pour l'analyser aussi. Alors, c'est un livre qui a l'air peut-être pour les tout-petits parce qu'il est sous format album, mais beaucoup de gens vont apprendre en lisant cette histoire très amusante, très rigolote, qui met en scène des poules et puis ses prédateurs. Et puis finalement, comprendre ce qui s'est passé réellement à la fin. C'est plein d'humour. C'est génial. Moi, je recommande tout ça à aller ensemble. Peut-être qu'à la suite de la lecture de ce livre-là, on va mieux comprendre comment sont construits les autres petits romans que j'ai présentés.
Merci beaucoup. Merci, Anne-Marie. On se retrouve la semaine prochaine.
Oui, à la semaine prochaine. Au revoir.
Quand décembre revient, quand la neige ton visage me revient en rafale de rire et d'étoiles. C'est nous deux à l'envers. Quand mes rêves, rêvent, c'est Noël rouge et vert. Nos 8 ans, nos amours d'hiver. Décembre revient, quand on résonne, sonne. Minuit, mon cœur se souvient de manège, de boule de neige. Tes petits grands yeux verts et ta bouche rouge faisaient tourner à l'envers mon traîneau, mon soleil. Marie-Noël, Marie-Noël, petite fille, joujou fragile, petit Noël, de mes Noëls d'enfant. Plus décembre revient, plus la neige. Sur mes Noëls rouges et verts, mes 8 ans, mes amours d'hiver.
Marie-Noël, chantée par Claude Pelgag.
Oui, nouvelle version très agréable. Il y a une nouvelle série franco-manitobaine intitulée « Malgré moi » qui sera mise en ligne jeudi. Jeudi, c'est très, très bientôt, le 4 décembre, sur Ici Tout TV Extra. Et pour en apprendre davantage, j'accueille avec plaisir une artiste multidisciplinaire, Stéphanie Morin-Robert. Bonjour Stéphanie.
Bon matin.
Merci d'être avec nous, chère Stéphanie. Présentez-nous « Malgré moi », qu'est-ce que ça raconte?
Bien, c'est une histoire d'amour,
oui.
Une histoire de vengeance.
Oh.
On a Daphné qui déménage de Montréal à Winnipeg pour l'amour.
Et Daphné qui est incarnée par...
Shelby Jean-Baptiste, et elle est amoureuse de Ilunga, jouée par Eddie King. Et voilà, le tout commence de là, puis ça s'en va partout. C'est plein d'anecdotes, plein d'aventures. Je veux dire, c'est une histoire d'amour, mais de vengeance, donc ça en dit beaucoup, sans
ouais.
trop dire.
Ouais. Quelquefois, ça va ensemble. L'amour et la vengeance,
ben, ouais,
malheureusement.
Exact,
et vous, Stéphanie, qu'est-ce que vous faites? Vous jouez Jules?
Oui, puis moi, ce personnage-là est un peu le comic relief.
Ah oui?
Dans la série.
Donc, vous apportez les rebondissements humoristiques.
Exactement. Puis moi, j'ai plein de projets. Je suis un peu ADHD dans ce que je fais. Puis ce qui est vraiment le fun de ce personnage-là, c'est que je suis l'épaule sur laquelle on pleure.
L'ami des deux amoureux?
Un peu, mais je dirais plutôt Daphné, jouée okay. par Shelby. Puis ce qui est vraiment cool pour moi, c'est de faire partie de tout ça. Parce qu'en tant que francophone hors Québec, c'est quand même rare qu'on ait ces opportunité-là chez nous.
Oui.
Puis en tant que maman avec 2 enfants, de pouvoir faire un tournage puis faire un beau projet comme ça, mais chez nous. Puis de
parce
pas...
que vous vivez à Winnipeg.
Oui, exactement. Oui. Je suis franco-ontarienne de base, mais depuis 6 ans, j'habite à Winnipeg. Puis, tu sais, toute ma vie, j'ai dû voyager, partir de chez nous pour travailler dans ma langue maternelle.
Et là, le tournage s'est fait à Winnipeg?
Exactement.
À Saint-Boniface?
Un mélange, mais quand on le regarde, c'est vraiment Saint-Boniface, mais on okay. s'est promené pas mal un peu autour de Winnipeg.
Et ça se passe pendant quelle saison?
Pendant l'été.
Oui. Ouais. Alors, on a des beaux paysages qui nous ramènent l'été. Ça va faire du bien.
Ça va faire du bien.
Pour ceux qui sont déjà tannés de l'hiver qui n'est même pas arrivé. Et vous êtes une personne en situation de handicap. Vous avez un handicap visuel. Mm-hmm. Est-ce que ça fait partie du personnage?
Bien, au début, non. Puis quand ils m'ont approchée, moi, je ne fais pas de télé d'habitude. Je suis vraiment artiste de scène. Je fais du théâtre, je fais de l'humour, puis je gagne ma vie depuis longtemps. Même j'ai un spectacle qui parle de mon handicap que je fais depuis 10 ans maintenant.
Ah oui.
Puis j'ai fait plus que...
Angle mort.
Oui, plus que 1300 représentations.
Wow.
Donc, c'est comme ça que je gagne ma vie, puis j'en parle. Puis, tu sais, les insécurités par rapport à mon handicap, j'en ai plus beaucoup, je pensais. Là, ils m'appellent, puis ils sont comme, on a une entrevue ou une audition pour toi, ça tenterait-tu, da-da-da-da-da, puis je sais, tout de suite, toutes les insécurités, on dirait, étaient là, puis intenses, puis c'était lourd, puis j'étais comme, ben
qu'est-ce qui vous insécurisait particulièrement?
Mais moi, j'ai jamais fait de télé parce que j'ai toujours adoré regarder, puis vivre plein d'histoires, puis j'adore comme...
C'est le médium que
le
vous connaissiez
médium,
pas.
Oui, puis c'est, mais j'ai toujours adoré ça, mais... Je me suis jamais vue à la télé. J'ai jamais vu quelqu'un avec une prothèse oculaire à la télé. Donc, moi, je pensais que c'était pas ma place. Puis qu'en cinéma, ça se dit dans les yeux. C'est une chorégraphie pour le focus, pour les yeux. Puis c'était mon interprétation de ce que je voyais. Puis l'émotion qu'on peut retrouver dans les yeux. Puis moi, mm-hmm. j'avais l'impression de vraiment avoir la moitié de ça, puis même moins que ça.
Donc, c'est vous qui vous êtes mis les freins, c'est pas les autres, finalement.
Exactement, puis c'est des freins que je me suis mis parce que moi-même, quand je vois un handicap à l'écran, je suis distrait parce qu'on n'est tellement pas habitué d'en voir beaucoup.
Mm-hmm.
Puis quand je me vois à l'écran, puis je l'ai vécu la première fois hier.
En visionnement de presse.
Oui, puis j'avais les larmes aux yeux, bien, à l'œil.
Ouais.
Puis j'étais... J'ai trouvé ça difficile. Puis moi...
Vous avez l'air sévère envers vous, là.
Je le sais. Puis,
critique
mais
beaucoup.
Pas d'habitude, non. Tu sais, j'ai tellement... J'ai vraiment une belle carrière à vivre, à parler de ça, à
oui,
promouvoir les handicaps.
Oui, l'assumer complètement.
À les normaliser. Mais là, ça a comme fait de quoi, là. Puis en tout cas, je retourne à comme l'audition et tout ça. Puis j'ai appelé avant l'audition, j'ai dit, je pense que je vais annuler parce que êtes-vous au courant que j'ai une prothèse oculaire? J'ai lu les sites, j'ai tout lu, puis ça mentionne rien de ça dans mon personnage. Comment que je puisse, moi, une personne handicapée, me voir dans un personnage ou que le personnage n'est pas handicapé pantoute. Puis, ils sont comme, ben oui, on est au courant, on t'a vu en spectacle, c'est pour ça qu'on te le demande, on pense que tu serais capable de le faire, tu sais.
Est-ce qu'il est question de votre handicap dans la série?
Ben au début, non. Puis après, quand ils ont dit, ah oui, elle, c'est parfait pour Jules, puis ils m'ont écrit
Jules,
pour
dire... OK, pas Jules,
ouais,
Jules.
Jules, puis quand ils ont dit, OK, Steph, elle va faire Jules, ils m'ont écrit pour dire, ça tente-tu de faire des punch-ups d'humour pour ton personnage, puis aussi intégrer le fait que tu as une prothèse oculaire. Parce que moi, j'ai dit comme, c'est bizarre d'approcher quelqu'un avec un handicap sans nécessairement... Mais j'ai jamais vécu de rien de ça,
ouais.
Right? Donc moi, j'étais vraiment comme open avec le fait que il y a plein d'insécurités qui sortent. Puis donc là, ils m'ont donné cette opportunité-là. Puis honnêtement, c'est Wookiee Films qui...
Les producteurs.
Oui, ils sont basés à Winnipeg. Puis c'était comme le plus beau cadeau que quelqu'un aurait pu m'offrir de pouvoir me dire que tu peux, si tu te vois pas là-dedans, nous, on te voit.
Uh-huh.
Mais... on te donne l'opportunité de faire en sorte que tu sois vraiment confortable.
Et comment le handicap est abordé?
Mais j'ai écrit une scène qui est dans la première épisode.
Donc, vous avez travaillé avec Sophie Bienvenue qui scénarise
mais pas
la plupart
directement,
des
parce qu'eux, ils m'ont envoyé le scénario, puis j'ai pu faire des punch-ups puis faire des petits changements pour mes répliques, puis les scènes dans lesquelles je me trouve,
ouais,
les répliques des autres aussi par rapport à mon handicap. Donc, des petits jokes de pour normaliser l'handicap et aussi
dérision.
Oui, exact.
Mais c'est important pour vous d'en parler parce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui rêvent d'une télésérie où ils seront là, où elles seront là sans nécessaire, pour les raisons parce qu'elles ont du talent, point, pas parce qu'elles sont handicapées.
Ouais. Puis j'avais besoin de ça pour cette première expérience. On dirait, je voulais... Donc, la première scène, quand mon personnage, quand on introduit mon personnage, on me voit vraiment comme chill, je mets ma prothèse. Tu sais, ça fait partie d'une scène. Mm-hmm. Puis maintenant, je suis comme... Mais tu sais, j'aurais pu être Jules sans devoir rajouter ça. Mais dans ce moment-là, je l'avais besoin.
Oui.
Puis je trouve que ça rajoute quelque chose de vraiment cool. Puis même que c'est le fun de pouvoir, c'est ça, normaliser les handicaps sans en parler directement.
Oui.
C'est pas comme on parle de ma vie puis comment j'ai perdu mon œil comme mon spectacle de théâtre. Tu sais, c'est vraiment juste, je suis un personnage puis on le fait puis comme on continue puis je
votre spectacle
plein
de théâtre, on peut le voir encore?
Oui, j'ai quand, plein de dates qui s'en viennent au Québec. Puis justement, j'ai une vitrine à rideau, une vitrine express qui s'en vient. Donc, ça va être la première fois que je pousse vraiment l'avant du spectacle. Mais l'année passée, j'ai passé à la Maison Théâtre. J'ai fait des spectacles là-bas.
Allez-vous revenir?
Oui, je ne peux pas mentionner exactement quand, mais il y a des intérêts avec le Théâtre d'Outremont, puis aussi les écuries à une tournée par rapport dans les maisons de la culture.
Alors, on va avoir la chance d'aller vous voir pour ceux et celles qui n'ont pas eu cette chance-là.
Les deux prochaines années, il y a pas mal de dates ici au Québec, à Laval, à Trois-Rivières.
Plus de 1000 représentations. Je suis vraiment admirative devant vous. Et c'est Maxime Beauchamp qui réalise la série Malgré moi. 4 épisodes. Est-ce que c'est une première saison? Est-ce qu'il va y avoir d'autres épisodes? Êtes-vous au courant?
Bien, c'est intéressant parce que nous, c'est sûr, quand tu fais partie d'un beau projet de même, tu rêves que ça continue.
Mm-hmm.
C'est vraiment une belle équipe. Puis
qu'est-ce que vous avez appris de plus précieux parce que c'était votre première expérience à la télévision?
Bien, j'ai appris que c'est... Il y a comme un luxe avec ça. Tu connais tes lignes, t'es là. Moi, j'ai l'habitude de porter plein de chapeaux dans mes productions parce que je fais l'écriture, je fais la mise en scène, je fais papa, c'est moi qui organise mes tournées, je suis agente, tu sais, je fais mes spectacles.
Une tâche.
Donc là, j'étais comme...
Je suis comédienne.
Qu'est-ce que je fais?
Oui.
Je m'emmerde toute la journée, pas vrai. Tu te presses à attendre, tu sais, c'est ça. Puis j'ai appris ça, puis j'ai beaucoup apprécié. Puis Max, tu sais, le réalisateur... tellement un cœur, tellement comme... C'est un franco-ontarien.
Aimé travailler avec... Oui.
Puis lui, c'est un franco-ontarien aussi. Donc
vous.
Ça, c'était comme... C'était tellement fun. Puis,
est-ce qu'il va y avoir plus que 4 épisodes? Est-ce que vous êtes au courant ou vous pouvez pas en parler? Est-ce que vous faites partie des 4 épisodes?
Oui.
Oui?
Oui.
Bon, bien, on a bien hâte de découvrir Malgré moi. C'est pour un public... à qui c'est destiné, cette télésérie-là?
Bien, je pense que un peu 18 ans plus, mais je dirais même 15 ans plus, okay. Si tu me le demandes. Mais c'est vraiment comédie romantique. Donc, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'embrassent dedans.
OK. Alors, on est convaincus et on va découvrir votre talent à la télé, Stéphanie. Ça a été un plaisir de faire votre connaissance, Stéphanie Morin-Robert. Je sais que mes collègues Yvan Deslauriers et Francine Forget vous ont déjà reçu en entrevue.
Oui.
Et ben moi, c'était une première et je pense que ce ne sera pas une dernière. J'invite les gens à découvrir Malgré moi en ligne le jeudi 4 décembre. C'est pas demain, c'est après-demain. C'est sur ici, tout TV Extra. Tout.tv extra. Merci.
Merci à toi.
Cet air si magique, promenade sentimentale de Vladimir Cosma. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. On se retrouve demain à 9h30.